Voilà, donc saluer tous ceux qui sont, tous ceux et celles qui sont connectés en ce moment, profitant de qu'il n'y a pas de match de foot ou de rugby à la télévision, autant que je sache, pour ce deuxième cours, enfin on appelle ça des cours, on va dire des entretiens, aimables entretiens ou catéchèses, enfin je n'ai pas la prétention de faire quelque chose de très académique, enfin, sérieux, oui, académique, non. Et mon propos, comme je l'avais dit, je crois, la dernière fois, c'est surtout de deux choses. D'une part, de parler de Dieu, parce que je trouve qu'on, quelquefois, enfin, ça c'est mon refrain en ce moment, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de Dieu, même dans l'Église. Nous parlons beaucoup, nous les êtres humains, les fidèles, les croyants, les orthodoxes, nous parlons beaucoup de nous-mêmes, de nos problèmes qui sont intéressants, nos problèmes de paroisse, nos problèmes d'église, nos problèmes de toutes sortes. Nous parlons d'anthropologie, nous parlons de... Bon, nous avons des sujets extrêmement intéressants, mais nous ne parlons pas beaucoup de Dieu lui-même, ou nous en parlons beaucoup, et c'est ça, c'est un vrai problème, ça d'ailleurs. Nous en parlons beaucoup comme d'un troisième, hein, comme d'un tiers, pas forcément exclu, mais un tiers présent et éventuellement absent. Enfin, mais exclu, non, n'exagérons rien, mais quelquefois un tiers absent. Et donc, on ne parle pas, quand même pas beaucoup de lui. On lui parle quand même, dans la liturgie, dans les prières que nous faisons tout le temps. C'est vrai que nous lui parlons quand même beaucoup. Mais entre nous, dans les réunions que nous avons pour réfléchir sur la foi, souvent nous ne parlons pas tellement de lui-même, comme si on avait, est-ce qu'on a peur, on a peur d'ennuyer. Et c'est vrai que quand je dis réconcilier un peu avec les mots, les concepts de la foi, j'ai fait ça un petit peu, je crois, la dernière fois, c'est-à-dire essayer d'expliquer que la théologie, c'est pas vraiment ce qu'on croit. La théologie, c'est vraiment un dialogue avec Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu à qui on parle. J'espère avoir donné un peu le goût de partager cet esprit qui, je crois, est l'esprit orthodoxe, en fait, quand même, principalement. C'est-à-dire l'activité théologique, le service théologique, l'expérience théologique dans notre Église, c'est une expérience vivante, interpersonnelle. Et c'est un peu le même propos pour moi aujourd'hui avec le mot dogme. Puisque nous avons annoncé, nous allons parler du dogme, du sens du mot dogme chez les pères de l'Église, particulièrement à partir des pères cappadociens. Alors c'est vrai, quand on a prononcé le mot dogme, et tous déjà ils s'en vont, ils ont déjà éteint leur écran pour aller manger du chocolat ou faire autre chose, parce qu'avec le mot dogme, c'est une chose affreusement ennuyeuse et qui a une très mauvaise consonance, une très mauvaise sonorité. C'est-à-dire un sens très 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 négatif en Europe occidentale en tout cas. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que je suis quand même un peu au courant. Le mot dogme, disons, ça veut dire vraiment une intolérance, qu'on veut imposer aux autres une vérité. Le dogme, ça fait penser à un dogmatisme. Donc c'est vraiment une catégorie de comportement très, très, très antipathique, je crois, pour beaucoup de nos contemporains. Il y a des mots comme ça qui n'ont pas beaucoup de... qui sont pas très bien vus ou bien entendus, disons. Le mot pénitence, on n'aime pas trop non plus. Le mot tradition, il faut le réexpliquer tout le temps pour montrer que c'est super intéressant et passionnant. Et le mot dogme, c'est ce que je voudrais faire ce soir, c'est en fait le réévaluer un peu ce mot-là avec certains textes que j'ai préparés. J'ai trouvé bien sûr beaucoup de matériel et peut-être que je peux vous citer déjà, en tout cas, un livre en tout cas, parce que tout ce que j'ai apporté là n'est pas forcément accessible. Il n'est pas forcément lisible, je veux dire, au sens quelquefois des textes très, très difficiles, très, très denses, vous voyez. Bon, voilà, quand même, être ce qu'on est, c'est-à-dire chercher des textes qui soient bons, mais qui soient accessibles. Et il y a un très bon texte, un très bon volume, qui est une réédition. Alors, je fais comme on faisait la télévision autrefois, je crois que c'était certains présentateurs à la télévision qui montraient des livres, comme ça, il y avait Les cercles, ça se faisait beaucoup. Et donc, je fais mon Bernard Pivot, si vous voulez, pour une fois. Et donc, dire que ce livre du Père Placide, là, je le montre, puisque la caméra est là pour le voir, s'appelle Certitude de l'invisible. Pas de l'invincible, mais de l'invisible. Et ce livre avait été publié par le Père Placide, l'archimandrite Placide de Seille, le saint homme de Père Placide, à qui nous devons tellement, 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 tellement ici en France. Et ça avait été publié déjà en 2002. Et puis, grâce à l'aide des uns et des autres, on s'est aperçu qu'il y a une réédition en 2012. Alors, je ne sais pas ce qu'ils feront en 2013, ils vont peut-être s'arrêter là, mais donc c'est une nouvelle édition et qui coûte le même prix que la première, c'est-à-dire 12 euros. Le volume a augmenté, il est plus épais, mais le prix est resté le même. C'est une très, très bonne nouvelle quand même. Donc, je recommande ça vraiment à tout le monde, au sens où il y a dans ce volume, ça s'appelle « Éléments de doctrine chrétienne selon la tradition de l'Église orthodoxe ». Bon, donc ça dit bien ce que c'est, et c'est vrai que ça permet d'aborder les questions de fond de la tradition orthodoxe, mais dans un langage vraiment simple. C'est que le Père Placide a ce charisme extraordinaire, je l'admire beaucoup, parce que vraiment pas comme lui, de s'exprimer dans un français extrêmement clair, extrêmement simple, extrêmement élégant, on peut le dire aussi, et pour tenir toujours des propos très sérieux et très profonds. Donc je le trouve un peu unique dans son genre. C'est très difficile d'être simple pour exprimer des vérités très très complexes comme celles de la foi. Donc, je vous recommande ça particulièrement, tout début dont je vais m'inspirer dire tout à l'heure, que je vais vous en lire des bouts tout à l'heure pour illustrer mes propres humbles propos, parce que maintenant, par rapport à Père Placide, je me sens tout petit, comme vous pouvez le savoir. Donc, il y a plusieurs points que je voudrais développer avec vous pour réévaluer ce terme de dogme, qui est un beau mot, vous allez voir. Il y a plusieurs mots. D'abord, je crois qu'il faut prendre le temps de voir que veut dire le mot. Je ne sais pas ce que vous savez, je ne connais pas au fond le genre d'information que vous avez déjà. Est-ce que vous connaissez le grec ou pas? Est-ce que vous connaissez le chinois? Est-ce que vous connaissez l'arabe? Je ne sais pas quelle langue extraordinaire est-ce que vous connaissez, mais donc je réexplique les choses simplement, sans offenser personne, que ceux qui savent déjà tout ça me pardonnent à l'avance. Et donc, je vais dire les choses assez simplement, sans prétention. Donc, d'abord, le sens du mot. Ensuite, je donnerai quelques textes intéressants pour vous faire mieux comprendre ce que je veux dire. Et puis, je continuerai avec des aspects intéressants qui sont le rapport entre le dogme et la prière et le caractère mystique du dogme. Alors, quand je vous dis que ça, donc, vous allez rester jusqu'au bout, parce que le caractère mystique du dogme, vous pouvez bien penser que c'est tout à fait extraordinaire. Donc, le sens du mot. En fait, il faut essayer de mettre entre parenthèses tout ce que ce mot peut signifier pour vous, de très négatif, de très même sectaire. Je pense qu'il y a dans la connotation qui circule, il y a l'idée d'une position sectaire dans le domaine doctrinal, d'une intolérance, d'une... Et c'est qui ne serait pas propre aux chrétiens, ce qui me rassure beaucoup, mais donc il y a des dogmes, par exemple le scientisme, certaines positions philosophiques. Je pense que dès qu'il y a des formes de sectarisme qui se développent, ça donne au mot dogme un sens très 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 pénible. Donc on va laisser ce sens-là et voir un peu ce que ça veut dire. D'abord, il faut toujours partir, il faut toujours, je trouve que c'est bien quand même de partir du sens étymologique des mots. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas le grec, mais c'est pas très grave, parce que ce sont des mots qu'on emploie beaucoup en français, beaucoup de mots d'origine grecque qu'on emploie en français, donc vous allez reconnaître très facilement. Donc, si j'avais un tableau derrière moi, j'écrirais en grec au tableau, ça ferait très bien sur l'écran, on dirait, voilà quelqu'un qui connaît le grec. Mais n'ayant pas de tableau, je ne vais donc pas écrire, je vais simplement dire les mots. Alors, le mot dogme, qu'il est, on l'écrit D-O-G-M-E, tout le monde est d'accord là-dessus, et en fait, il vient d'une racine grecque très importante et très intéressante. Laquelle? Eh bien, il vient d'un mot du grec tout à fait courant à l'époque classique, et tout à fait courant maintenant dans la liturgie, qui est le mot doxa, voxa, si on prononce correctement. Doxa qui veut dire qui a plusieurs sens aussi. J'ai regardé un petit peu, j'ai voulu revoir un peu mes informations à ce sujet. En fait, le mot doxa en grec classique peut avoir un sens très très faible. Chez Platon, ou des philosophes comme ça, dans l'Antiquité, la doxa s'oppose à la vérité. La doxa, c'est l'apparence des choses, c'est une opinion. C'est une opinion qu'on a, mais c'est tout à fait opposé à ce qu'on appelle aletheia, en grec, qui est la vérité. Donc, il faut quand même savoir ça. Alors, ce n'est pas du tout l'acception chez nos pères de l'Église, je vous rassure tout de suite, mais c'est pour vous dire que le mot, au bas sens du mot, disons, ce mot peut avoir un sens vraiment très très faible. Voilà, c'est purement une opinion. Ce n'est pas plus intéressant que ça. Et c'est une opinion parce que c'est au fond, ça se rapporte à l'apparence. Chez Platon, la doxa, c'est l'apparence des choses, l'apparence des réalités. Mais le même mot doxa, donc il se rapporte à l'apparence, il peut avoir un sens très fort qu'on trouve chez les pères, justement, qu'on trouve dans la liturgie notamment, qui est le sens presque opposé, c'est le sens de resplendissement. Oui, donc de l'apparence purement vaine, au fond, au resplendissement, au rayonnement, à la luminosité des choses, vous voyez qu'il y a un monde, et bien le mot a ces deux sens-là. Et le mot dogme, donc dogma en grec, vous voyez que c'est la même famille, doxa et dogma, tout le monde a assez d'oreilles pour entendre que c'est la même famille, mais dogma c'est un petit peu la même situation, c'est-à-dire que le mot dogma il varie aussi du sens faible qu'on trouve chez les Grecs anciens. Dogma, voilà, une pure opinion, une idée à soi, une idée personnelle. C'est justement ce qu'on ne veut pas que ce soit le dogme. Justement, genre opinion individuelle, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Moi, je pense que, vous voyez, nos discussions, souvent, ça tourne un petit peu à ça. Chacun y va de sa petite opinion. Mais c'est très, très individuel, très subjectif. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt du point de vue de la connaissance. Ça, c'est vraiment le sens faible du mot dogma, qui est le mot grec correspondant. Et puis, à l'opposé, à l'autre extrême, le même mot quand même, dogma, a chez les pères un sens très très fort, qui est le sens de l'évidence de la vérité. L'évidence de la vérité. Et je dis l'évidence parce que justement, il conserve cette idée de resplendissement, d'illumination, de rayonnement. Au fond, le dogme, déjà, on sent que c'est le rayonnement de la vérité. On est très très loin de l'idée d'une construction humaine, d'une doctrine humaine, d'une philosophie religieuse. Rien de tout ça, vous voyez. Donc, dès le début, vous voyez l'intérêt de ce mot dans les différentes acceptions. Et bien sûr, chez les pères et chez nous, qui sommes hérités de la tradition patristique, ben, en toute humilité, et dans la liturgie en particulier, ben le mot dogma, comme le mot doxa, ont un sens fort. Le terme doxa, vous l'entendez tout le temps. Si vous écoutez un petit peu des offices en grec, à chaque fois qu'on dit gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ben c'est doxa, to patri, ketoio, ketoio pneumati. Donc c'est un sens très très fort, vous voyez. La glorification, la louange, la célébration, on ne sait pas quoi dire d'autre. Toutes nos prières commencent comme ça. Gloire à toi. Doxasi, Kyrie Theosimon, doxasi. Doxasi, Christe. Tout le temps. Et je sais que les Grecs, qui sont très sympathiques, ils sont tout le temps à dire Doxato Theo. Gloire à Dieu. Comme les Roumains qui disent tout le temps Slav Dumnezeu, les Russes Slav Bogu, je pense. Et donc cette glorification continuelle, cette reconnaissance continuelle de la présence de Dieu, de la réalité de la personne divine et de la bonté de Dieu aussi qui nous aide, qui intervient dans notre vie, etc. L'amour de Dieu pour nous, enfin, au fond, tout ce qu'on peut avoir envie de dire de beau et de grand et d'intéressant au sujet de Dieu, tout ça, c'est dans, quand même dans ce mot doxa, vous voyez. Continuellement, vous voyez. Continuellement, et c'est très 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 important, c'est un rythme liturgique. Et bien c'est à ce rythme liturgique que je voudrais dire que correspond l'idée, si vous voulez, le concept théologique de dogme. Donc le dogme serait, vous voyez déjà, ce qu'on appelle le dogme, ou les dogmes, enfin on va dire que ça s'articule. Le dogme, c'est donc ça, c'est cette en fait glorification de la vérité que Dieu nous a donnée. Ce que Dieu révèle de lui-même, eh bien, on le glorifie par le dogme ou par la doxa, la glorification. Donc le dogme ou les dogmes ne sont pas des constructions humaines, on a compris, ne sont pas des opinions, on a compris aussi, mais sont des célébrations, des formes de célébration de la vérité de Dieu et donc de la personne de Dieu, parce que derrière la vérité de Dieu, il y a la personne divine qui dit la vérité. Vous voyez ? Donc, alors ça, ce sens-là, pour justement parler des pères cappadociens, il est exprimé beaucoup dans les textes de Saint Basile. Saint Basile de Césarée, très très grand spirituel, très grand père spirituel, très grand sage, très grand évêque, très grand. Donc il n'emploie beaucoup ce mot. Et là, je vais vous dire quelque chose de plus, c'est qu'il emploie ce mot très souvent en relation avec un autre mot qui n'est pas du tout de la même racine, mais qu'il associe tout le temps, qui est le mot, je ne sais pas comment je vous le pose, en grec ça se prononce Eusebia, vous pouvez l'écrire Eusebia, E-U-S-E-B-E-I-A. Et ça c'est une question que j'ai étudiée autrefois en approfondissant. C'est un mot qu'on traduirait en français, on va le traduire par piété. Mais alors déjà, en traduisant ça, le mot piété, je ne sais pas ce que ça vous dit, ce n'est pas très intéressant, la piété, piété. Mais bien, figurez-vous que la piété est une valeur fondamentale de la société traditionnelle grecque ou latine. Les Grecs, les Latins avaient traduit par pietas. Donc l'Evsevia ou la pietas latine, c'est en fait la valeur de référence dans la société antique. C'est par exemple ce que tu fais pour Dieu et ce que tu fais pour ta famille. C'est le respect que tu exprimes à l'égard de ta famille. C'est le respect que tu exprimes à l'égard des dieux de la cité si tu vis à Athènes ou dans une cité grecque. C'est cette espèce de loyauté à l'égard des dieux, s'il y en a plusieurs, du divin et du dieu personnel, si on le connaît. Et de loyauté aussi à l'égard de la communauté humaine. Donc c'est un mot très très important. Et Saint Basile associe tout le temps le terme de dogma, ou l'idée de dogme, c'est-à-dire l'idée de glorification de la révélation divine, il l'associe continuellement à cette notion d'Evsevia ou de piété. Ça c'est extrêmement important, parce que ça donne ça, cette association donne au mot dogme justement toute sa coloration religieuse, en fait. Pas sentimentale, pas affective, mais il y a une connotation religieuse. Pour nous, nous essayons d'être orthodoxes, mais c'est très difficile. On croit qu'on est orthodoxe, etc. Mais finalement, on a du mal à vraiment être dans l'esprit patristique, l'esprit judéo-chrétien profond qui était celui des pères, qui est celui de la tradition patristique jusqu'à nos jours. Parce qu'au fond, je ne voudrais pas être négatif, mais il me semble que le modèle théologique qui s'est imposé dans pratiquement tous les pays chrétiens, c'est quand même le modèle occidental, le modèle rationaliste, le modèle dogmatique, au sens de académique, si vous voulez, ou scolastique. Ce modèle s'est imposé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et donc il faut d'une certaine façon, sans être dans les réactions passionnées ou primaires, si vous voulez, mais quand même se dégager de cette influence qui est totalitaire, en fait, qu'on voit dans toute la façon de fonctionner des théologiens, de beaucoup de théologiens orthodoxes quand même. Hein. La théologie académique s'est imposée partout, en Roumanie, en Russie, en Grèce, bon, c'est parce que, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait énumérer ici, c'est pas tellement le lieu. Et c'est pour dire que ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est de retrouver l'esprit vraiment orthodoxe, vraiment traditionnel, vraiment patristique de la théologie et donc du dogme en l'occurrence. Et bien justement, Saint Basile nous fournit le moyen avec ce couple Evsevia ou piété, piété et dogme, dogme et piété. voyez. Et vous allez, par la même occasion, revaloriser le terme de piété, si vous voulez bien. C'est un mot qu'on n'emploie pas du tout et qui est pris également dans le sens péjoratif quand on l'emploie. Quelque chose de sorte de sous-produit de la religion, très privé, un petit peu naïf, un peu enfantin ou puéril, très subjectif, de gens qui ne réfléchissent pas. Enfin, c'est un mot qui est vraiment abîmé. Donc on va redécouvrir le mot piété aussi, si vous voulez bien, en redécouvrant le mot dogme. Et donc on redécouvre la dimension religieuse du dogme. Mais en fait, pour vous, pour nous qui sommes orthodoxes, c'est quand même assez clair tout de même. C'est-à-dire que nous voyons bien que dans la liturgie, nous voyons bien l'aspect religieux de notre théologie quand même. C'est pas assez facile. Moi, ce que je dis là, au fond, tout le monde le sait, pratiquement. C'est assez facile pour moi de revenir là-dessus. Alors, donc Saint Basile dit ça, et en particulier, c'est dans son livre sur le Saint-Esprit. Si vous pouvez trouver ça d'occasion ou l'emprunter dans une bibliothèque, c'est une édition, je pense, c'est l'édition des Sources chrétiennes, l'ancienne édition des Sources chrétiennes, qui a été rééditée d'ailleurs. Et vous regarderez à la fin, il y a un index avec le vocabulaire. Alors ce qui serait bien, c'est que vous lisiez un tout petit peu le grec pour peut-être vous y repérer, mais il y a peut-être les mots aussi en français. Par exemple, vous verrez peut-être le mot. Bon, je sais qu'il y a un index en grec, évidemment. Donc, apprenez un minimum de grec, je vous assure, ça vous fera beaucoup de bien. Ça permet de retrouver un mot, quand même. Et donc, dans le texte sur le Saint-Esprit, il emploie le terme d'Evsevia lié au terme dogma. Vous voyez ? Intéressant. Et dans d'autres textes, moi j'ai beaucoup utilisé pour mon propre travail les lettres de Saint-Basile, il y a 3 volumes de lettres de Saint-Basile, qui sont publiés chez Budet, édition Budet. Les belles lettres, Guillaume Budet, et donc ce sont des lettres qui sont presque toutes intéressantes, et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces lettres, comme il était évêque, à une époque très, très difficile de lutte, vous savez, de doctrinale, justement, et dogmatique, il était dans la position de rappeler à ses collègues évêques à droite et à gauche, de rappeler justement qu'est-ce que c'est que le dogme chrétien. Alors chez lui, évidemment, le mot dogme prend une coloration très, très doctrinale. Mais ce n'est pas en contradiction, vous voyez. Je vais essayer d'expliquer ça, peut-être. Pourquoi est-ce que le dogme est quelque chose de tellement rigoureux ? Essayez d'expliquer ça, en fait. Parce que, si vous voulez, je pense que le mot dogme, il est précisé par le mot d'orthodoxie, dans lequel vous retrouvez doxa et dogme. Qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie ? Ce n'est pas la forme orientale du christianisme, etc. Je pense que tout le monde sait ça maintenant, tout de même. On est sorti de ce préjugé, au fond. Mais que le terme d'orthodoxie, il précise la notion de dogme parce qu'il veut dire justement juste glorification. Alors, bien sûr, on peut traduire par droite doctrine, mais là, on tombe dans quelque chose d'un petit peu sec. Le mot lui-même, c'est juste glorification. Pourquoi ? Ça, je l'avais expliqué la dernière fois, parce que la théologie n'est pas seulement ce qui parle de Dieu, mais qu'elle est surtout et principalement la louange adressée à lui par les anges et par les hommes. Vous savez que les anges ne font que ça. Enfin, non, ils ne font pas que ça, parce qu'ils s'occupent de nous un petit peu. Mais les anges supérieurs, les chérubins, les gens comme ça, très très les hauts grades, du monde angélique, ils ne font que ça. Et qu'est-ce que c'est que la théologie des anges ? Qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie des anges ? Qu'est-ce que c'est que la profération du dogme indicible qui est quand même qui nous attire à lui ? Eh bien, c'est cette fameuse parole angélique que nous avons dans la liturgie « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu ». Donc cette glorification consiste, en fait, vous voyez, à dire le nom de Dieu. Donc la théologie, la doxologie, et la dogmatique et l'orthodoxie, ça consiste principalement à prononcer le nom de Dieu, à sanctifier le nom de Dieu. Et c'est pour ça que la théologie chez nous est appelée, on emploie ce terme-là chez les orthodoxes, est appelée une théologie doxologique. Elle rend à Dieu la gloire qui vient de lui. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle répond, en fait, à la prière de notre Père. Qu'est-ce que nous disons à notre Père ? Père céleste, Sanctifié soit ton nom, que ton nom soit sanctifié. Agasi toto onamason. Et c'est ça que fait la théologie, c'est ça que fait le dogme, c'est ça que fait la doxologie, c'est ça que fait l'orthodoxie. Nous sommes là pour sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire sanctifier tout ce que Dieu a révélé de lui-même aux anciens, c'est-à-dire les prophètes, les pères, les apôtres, etc. Oui, donc, c'est sanctifier. Et qu'est-ce que c'est que sanctifier qui fait que, vous savez que Dieu peut se glorifier lui-même, Dieu se glorifie lui-même, bien entendu, mais il est glorifié par son peuple, c'est-à-dire nous, vous, nous tous. Et dans ce sens-là, l'ensemble de l'activité liturgique, elle est dogmatique aussi. La liturgie est dogmatique. Non pas parce qu'elle serait sectaire, qu'elle dirait du mal de ceux qui ne croient pas, etc., mais elle est dogmatique parce qu'elle n'est pas autre chose que, dans le fond, la sanctification du nom de Dieu ou la glorification de ce que Dieu a révélé de lui-même, c'est-à-dire principalement Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça que là, un des moments importants de la liturgie est quand même ce qu'on appelle le Trisagion, Saint-Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, non seulement de la liturgie eucharistique, mais même de notre prière personnelle simple. Là, je viens de dire avec une amie, un lacatiste au Saint-Esprit, ce que j'essaie de faire chaque fois que je viens pour faire ces catéchèses, eh bien, on commence par ce qu'on appelle les prières initiales, ben, Saint-Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, aie pitié de nous, fais-nous miséricorde. Et on termine comment? Ben, Saint-Dieu, les prières initiales, les prières finales de pratiquement tous nos offices, je pense, comportent ça. C'est-à-dire le résumé angélique, ou archangélique, ou séraphique, ou chérubique de la théologie et du dogme. Dieu est saint, saint, saint. Dieu est le trois fois saint. Saint est son nom, etc. Donc on ne fait que cela, mais le Christ nous a appris que saint, 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 ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Trisagion est, par excellence, porteur de la révélation trinitaire. Et donc nous, quand nous célébrons, quand nous prions, eh bien nous disons à Dieu ce qu'il nous a dit qu'il est. Vous voyez ? Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que le caractère dogmatique de la liturgie, il est profondément religieux parce qu'il ne consiste pas à exprimer des opinions au sujet de Dieu, mais il consiste à dire à Dieu ce que Dieu nous a dit de lui-même. C'est-à-dire, en fait, à rendre à Dieu ce qu'il nous a révélé de lui. C'est pour ça qu'on parle nous te rendons grâce. C'est pas seulement on te dit merci pour ceci, pour cela, merci parce qu'on a bien mangé aujourd'hui, mais merci parce qu'on a un toit sur la tête, qu'on a un travail, etc. Mais il y a beaucoup de raisons de dire merci à Dieu. Mais plus profondément, rendre grâce à Dieu, c'est le reconnaître tel qu'il est. Dieu s'est révélé comme Père et nous le reconnaissons comme Père en lui disant Père. Dieu s'est révélé Père, Fils et Saint-Esprit, nous le reconnaissons comme tel en disant gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté en tant que Verbe en s'unissant totalement à la chair humaine et nous le glorifions, c'est nous le rendons grâce, nous reconnaissons ce qu'il a fait en disant gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Donc là, le caractère dogmatique, il a bien cette connotation de louange, de doxa. Dans dogme, il y a bien doxa, qui est louer Dieu, glorifier Dieu, célébrer Dieu. Mais pas le célébrer de l'extérieur, comme ça, avec nos propres idées, mais le célébrer tel qu'il s'est fait connaître. Et je m'en perds Placide, quand je vais le retrouver, le texte, il dit ça beaucoup mieux. Je vais le trouver. C'est dans le début de son livre, donc « Certitude de l'invisible », le premier chapitre qui s'appelle « La foi chrétienne », où il dit justement « La doctrine n'est pas première dans le christianisme ». Alors ça paraît c'est un peu surprenant, mais on voit très bien ce qu'il veut dire après, c'est qu'effectivement le christianisme ne se présente pas comme une doctrine d'abord, il se présente comme un dogme, c'est-à-dire une glorification de ce que Dieu a révélé de lui-même. Et voilà, il dit ça par exemple. Voilà, c'est page 8, excusez-moi, je suis un peu long. La foi chrétienne, c'est cette adhésion de notre cœur et de notre esprit, et voilà directement ce que je voulais dire, à ce que Dieu a dit lui-même de ce qu'il est, de ce qu'est son dessein sur sa création, et sur l'homme en particulier. Donc voilà, Père Placide dit en termes beaucoup plus simples et clairs ce que j'essayais de dire. Voilà, ça c'est notre sujet, vous voyez, c'est vraiment très très important. Et c'est pour ça que cette rigueur chez les pères, chez saint Basile, quand dans ses lettres, quand il a à défendre la foi chrétienne, à défendre le dogme chrétien tout de même, cette rigueur, elle ne vient pas d'un sectarisme, si vous voulez, mais elle vient d'une fidélité simplement à ce que Dieu nous a révélé de lui-même. Si ce serait du sectarisme, si nous défendions des opinions humaines, des philosophies de passage, mais nous ne défendons pas quelque chose qui est à nous, ce n'est pas à nous. Enfin, c'est à nous parce que Dieu nous l'a donné, cette révélation de lui-même, mais ce n'est pas à nous. Ça nous est confié, il nous a confié la révélation de lui-même, et nous l'ayant confié, il attend de nous que nous la lui rendions en action de grâce. C'est pour ça que le contenu de la célébration, cette louange adressée à lui par les anges et par les humains, le contenu n'est pas arbitraire, il n'est pas purement subjectif, il n'est pas relatif. Mais c'est vrai que les orthodoxes, on a une position très dogmatique. C'est vrai qu'on a une position dogmatique dans ce sens-là, que nous ne pouvons pas admettre le moindre relativisme, le moindre discussion dans le domaine de la foi. Il n'y a aucune discussion possible, vous voyez. La foi ne se discute pas parce qu'elle ne vient pas de nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute de ce que Dieu nous a donné? Alors, vous êtes pour ou contre, c'est un autre problème. C'est apprendre ou à laisser. Ce que Dieu révèle de lui-même ne se discute pas, il est à prendre ou à laisser. Et si on le prend, c'est pour le lui rendre. Et donc à ce moment-là, il est clair que le contenu de notre célébration, parce que la théologie est une célébration, oui, je dirais une théologie doxologique, comme je disais, pas seulement dans la célébration cultuelle, mais dès que, là en ce moment, je suis en train de célébrer Dieu quand même, à ma manière, mais je suis en train de célébrer. Je suis en train de célébrer, c'est-à-dire que je suis en train de reformuler, de redire, de rendre à Dieu ce qui vient de Dieu, de le partager avec ceux qui sont présents. Donc il y a quelque chose de profondément glorifiant et doxologique dans l'activité que j'ai présentement. Vous voyez, je ne cherche pas à expliquer, je cherche à valoriser au maximum l'intérêt de ce thème. Et je cherche à communiquer l'enthousiasme qui m'appartient et je cherche à attirer aussi d'autres personnes à cet enthousiasme et à cette louange. Parce que le contenu de cette célébration, qui n'est donc pas arbitraire, ni subjectif, ni relatif, etc., enfin, qui ne se discute pas, parce qu'il ne relève pas de l'opinion, ce contenu, c'est la vérité divine elle-même. C'est ça le contenu de notre célébration. Quand nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, c'est la vérité divine elle-même qui est le contenu de la célébration. C'est quand même clair, vous voyez. Et à plus forte raison aussi, dans ce très 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 beau texte qu'on appelle la petite doxologie ou la grande doxologie, qui est, comme vous le savez sûrement, un des plus anciens textes de la tradition chrétienne. Et qui comporte un passage stupéfiant qui dit « Nous te rendons gloire pour ton immense gloire ». Alors ça, c'est vraiment le maximum qu'on peut faire, c'est-à-dire glorifier Dieu pour sa gloire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, de plus, de mieux que ça, voyez. C'est là le tout début du texte, de rendre en gloire pour ton immense gloire. Moi, je trouve ça absolument sensationnel. C'est-à-dire que ça montre ce que peut être l'état angélique ou archangélique, je le dis parce qu'on est dans la clôture de la fête des saints archanges aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être que l'activité angélique, mais c'est ça, c'est glorifier Dieu pour sa gloire. C'est-à-dire multiplier à notre niveau la gloire que Dieu manifeste à partir de lui-même. Multiplier ça, célébrer, et c'est ça connaître, c'est ça penser, et c'est ça effectivement avoir une attitude dogmatique dans le sens profond que j'essaie de communiquer. Donc, et dans ce sens-là, l'ensemble de l'activité liturgique est dogmatique. C'est une activité dogmatique. Nos prières sont dogmatiques. J'ai un petit livre ici qui s'appelle Proceptiter, un petit livre que malheureusement on ne trouve plus, je crois. Ça s'appelle Prière pour le soir, le matin et midi. Je l'ouvre comme ça. Ah ben là, je tombe sur le psaume 50. Alors évidemment, ça va être simple. Mais par exemple, les prières du matin. Alors, ben, je vois une prière de Saint Basile, donc notre Cappadocien du jour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de l'univers et de toute chair, qui demeurant là-haut te penche pour voir notre misère, toi qui sondes les cœurs et les reins et clairement connais les secrets des hommes, lumière sans début ni fin, en laquelle il n'est point d'altération ni l'ombre d'un changement, toi-même, roi immortel, accueille les prières qu'alors présente ou d'adressons de nos lèvres souillées, mais avec confiance en ton abondante miséricorde. Remets-nous les péchés que nous avons commis en action, en parole, en pensée, consciemment ou par inadvertance. Mais vous voyez, le contenu de la prière ici est évidemment dogmatique, hein. Même si c'est en filigrane peut-être, mais je ne vais pas vouloir la relire, vous voyez, mais il est dit que Dieu est le souverain du monde, il est dit qu'il est créateur, il dit qu'il voit dans le cœur des hommes, il dit qu'il est bon, il est dit qu'il est immortel, il est dit qu'il est miséricordieux, il dit qu'il pardonne, et la suite du texte est à peu près la même chose. Accorde-nous de passer toute nuit de la présente vie dans la vigilance du cœur et la sobriété de l'esprit, attendant la venue du jour lumineux et resplendissant de ton Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'avec gloire il viendra sur terre, comme juge de l'univers, rendre à chacun selon ses œuvres. Une prière quotidienne qui est en fait un credo, qui comporte des éléments importants du credo. Ça, c'est typique de la prière en activité dans notre Église orthodoxe. C'est vrai que quelquefois, pour les personnes nouvelles, ça paraît très très difficile, et très justement, ce sont des prières très théologiques, nos prières. Même, regardez les prières avant la communion, je ne sais pas si je les ai ici, les prières qu'on dit avant la communion, elles sont très théologiques, nos prières sont très théologiques, mais notre liturgie est très théologique, ou bien notre théologie est très priante et très liturgique elle-même. Je cite toujours cet exemple, c'est facile de le citer, l'hymne à la Mère de Dieu. Il est digne, en vérité, de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et très pure, et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse incomparablement que les séraphins, toi qui s'entaches, enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous te magnifions, on traduit nous t'exaltons, mais nous te magnifions, c'est mieux, c'est plus le mot grec, c'est mégalino même. Donc, est-ce que ce texte-là qu'on dit tous les jours, combien de fois par jour est-ce qu'on dit cette prière-là? Est-ce que cette prière-là n'est pas une prière profondément théologique, profondément dogmatique, dans laquelle on confesse, mais avec, en y revenant d'ailleurs, on confesse l'incarnation virginale dans toute sa forme. Deux fois dans cette prière est employée l'expression Mère de Dieu. Toi plus vénérable que les chérubins humains, toi véritablement la Mère de Dieu. Et c'est la deuxième fois. Donc on dit deux fois ce mot, ce nom par lequel on appelle la Vierge Marie, qui est un nom dogmatique. Et c'est même tellement un nom dogmatique que vous savez probablement que certains chrétiens, ou personnes qui pensent être chrétiennes en tout cas, ne veulent pas employer ce mot-là. Et quand on les pousse un petit peu, et ça m'est arrivé, un ami très cher, je l'ai poussé un petit peu, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas employer le mot de Mère de Dieu dans la prière, quand même, pourquoi? Ah non, ça, jamais je ne dirais ça, jamais je peux dire ce mot-là, c'est pas possible, elle n'est pas Mère de Dieu. Mais si elle est Mère de Dieu, et je le poussais un petit peu, et je me suis aperçu que cet ami très cher, qui est un assez bon chrétien par ailleurs, est profondément hérétique, enfin, nestorien très probablement, c'est-à-dire qu'il nie dans le fond, il ne croit pas, je parle un peu fort peut-être, dans le fond, il ne croit pas que l'embryon dans le sein de la Vierge soit Dieu et homme déjà en plénitude. Il ne le croit pas, figurez-vous. Et c'est bien parce qu'il ne le croit pas qui pense que le Christ est devenu Dieu à un autre moment, c'est pas très bien accordé, hein. Enfin, je dis avant la résurrection quand même, point limite, ou alors la résurrection serait une... Enfin, je ne savais pas plus très bien ce qu'il pensait, mais enfin, en tout cas ce qu'il m'a dit clairement, c'est que pour lui, s'il refusait le terme de Mère de Dieu, c'est parce qu'effectivement il ne croit pas qu'elle le soit. C'est très intéressant, vous voyez, c'est pas uniquement pour des raisons de sensibilité, c'est pour une raison dogmatique. Raison dogmatique, c'est pour ça que je lui dis, parce que oui, on parlait avec cet ami, il me disait, vous me refusez la communion. Je dis, non, moi je ne vous refuse pas la communion, c'est pas ça le problème. Hein. Et vous n'êtes absolument pas en communion. Ça c'est sûr. Vous n'êtes absolument pas en communion avec l'Église des Pères, et donc l'Église orthodoxe, la preuve, etc. Et donc, je prends cet exemple-là parce qu'il est vraiment à notre portée, il montre ce que c'est que le dogme. Pour nous, les chrétiens orthodoxes, c'est ce que nous disons dans la prière, c'est que nous reconnaissons C'est vraiment le mot de reconnaître. C'est pour ça, je ne veux pas être trop long, ça va, ça... Et c'est très intéressant ça, parce que vous savez qu'en grec aussi, on emploie le terme de homologueo pour dire, ben ça donnait homologué en français, c'est donc attesté. Donc, qu'est-ce qu'on homologue? Eh bien, on homologue, on traduit ça en français par confesser. En grec, homologueo, martyro aussi, c'est un petit peu la même signification. Et en grec, en roumain, vous avez marturisire. Marturisire qui veut dire, là, qui veut dire ça, qui veut dire homologisis, et qui veut dire confession, mais dans le sens de attestation ou homologation d'une vérité ou de la vérité. Voilà, j'atteste parce que je crois. Et ça, c'est assez important. C'est avec le mot confesser ou reconnaître un sens vraiment très très fort. Connaître Dieu, c'est le reconnaître, pas seulement, et ce qui est vrai aussi d'ailleurs, c'est pas seulement le reconnaître parce qu'on l'a déjà vu dans la Bible, on connaît le son de sa voix, on sait comment il s'y prend, on le reconnaît au sens de, on l'identifie. Par exemple, les disciples ont reconnu le Christ à la fraction du pain, ils l'ont identifié, donc c'est lui, alors qu'il avait un aspect très très différent de ce dont ils disent, mais ils l'ont reconnu à ça. Mais la reconnaissance, c'est pas seulement ça, c'est aussi le sens de gratitude. De gratitude, donc on revient au sens de louange, célébration, remerciement, et ça a surtout le sens de attester ce qui vient de Dieu. Attester ce qui vient de Dieu. Reconnaître dans le sens théologique et dogmatique, si vous voulez, c'est dire oui, oui, tu t'es montré à nous, oui, tu t'es fait chair, Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel. Ouais, là, je suis en train de reconnaître un fait. Je n'exprime pas une opinion. C'est un texte extrêmement dogmatique que nous avons dans la liturgie aussi. Hein. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel. Ah, c'est un. Et qui, pour l'instant, c'est un texte très 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 beau, très 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 court au fond, très dense, et qui est profondément dogmatique, et dans lequel justement nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous par l'incarnation. Donc vous voyez, tous ces mots-là sont très très forts parce qu'ils soulignent d'abord que la théologie, comme je le disais la fois précédente, est vraiment une activité dialogante ou dialogale ou dialogique, je ne sais pas ce qu'on va dire, mais il souligne aussi que l'essentiel est de nature sacerdotale ou eucharistique. Qu'est-ce que nous faisons dans l'Eucharistie? Nous ne faisons pas autre chose que cela. Hein, donc la vérité divine reçue de Dieu est offerte en retour à lui dans l'action de grâce. Nous offrons à Dieu ce qui est à lui, nous qui sommes à lui, et pour tous ceux qui et tous ceux qui sont à lui. Cette formulation-là, qui évidemment fait allusion à l'Eucharistie sacramentelle, en fait, elle est le contenu de l'activité dogmatique. Elle est le contenu de la théologie. La théologie fait exactement ce que fait l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'elle rend à Dieu ce que Dieu a donné. Rendre grâce, c'est offrir à Dieu ce qui vient de lui. Et pas, bien sûr, le pain, le vin, tout ce qu'on offre, mais la vérité elle-même. La vérité elle-même. Et c'est ça le contenu, moi je trouve ça génial. C'est ça le contenu de l'Eucharistie en fait. Le contenu de l'Eucharistie, c'est l'oblation de la vérité au Père qui nous a donné cette vérité. Et cette oblation de la vérité, c'est l'oblation du Christ lui-même, identifié au pain et au vin, au corps et au sang. Vous voyez ? Donc le contenu de l'Eucharistie elle-même est un contenu dogmatique dans ce sens-là. Puisqu'il est. Il est la célébration de la vérité, il est l'offrande de la vérité à celui qui est la source de la vérité, il est l'offrande de la vérité du Fils, la vérité en personne, la vérité incarnée, la vérité manifestée, la vérité hypostasiée qui est la vérité du Verbe, du Fils unique de Dieu, et cette offrande elle est faite au Père qui en est la source, et elle est faite dans l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. Alors, bon, vous allez me dire, mais tu es là en train d'enfoncer des portes ouvertes. Le petit, je vous demande pardon, c'est encore ce qui est le plus facile à faire. Ça me fait beaucoup moins mal en enfonçant des portes ouvertes que s'il fallait défoncer des murs. Mais je trouve que c'est important, parce que d'une part, ça montre quel est le statut de la vérité dans l'Église, C'est un statut sacerdotal, c'est un statut sacramentel, c'est un statut religieux. Et d'autre part, ça montre dans l'Église quel est le statut exact du culte, de la liturgie et du rite, mais qui est un statut théologique et dogmatique. Alors, pour cette raison, bien sûr que ça doit être précis, parce que le dogme chrétien, il est effectivement la doctrine exacte. Je ne dis vraiment pas ça pour faire de la peine à qui que ce soit. Nous n'y pouvons rien. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui s'est révélé. Le dogme chrétien est la doctrine exacte. Pourquoi ? Parce qu'il ne dit de Dieu, il ne dit de Dieu, au sujet de Dieu, et il ne dit à Dieu que ce que celui-ci dit de lui-même, de l'homme et de la création. Ça, vous voyez, donc c'est ça la rigueur du dogme chrétien. C'est qu'on n'ajoute rien. Saint Basile, bien sûr, c'est vraiment, c'est battu par toute sa vie. C'est un homme qui, il dit dans ses lettres qu'il est fatigué, il est fatigué, fatigué, fatigué. Mais il s'est fatigué justement à ça, à dire, mais on ne peut pas toucher à ça, on ne peut pas enlever quelque chose, on ne peut pas ajouter quelque chose au dogme, parce que c'est, cette rigueur, c'est la fidélité à la révélation elle-même. À la révélation elle-même, vous voyez. Et j'aime bien cette formule que j'ai trouvée, le dogme chrétien, il ne dit de Dieu et à Dieu que ce que Dieu dit de lui-même, du monde et de l'homme. Rien de plus, rien de moins. Et si on arrive à le dire, c'est déjà pas mal, parce qu'on est déjà très 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 en dessous de ce qu'on peut dire de Dieu ou de ce qu'on peut dire à Dieu. Et à la limite, on dit Alléluia, 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 parce que les mots nous manquent pour célébrer Dieu, et c'est pour ça que c'est très très beau. Vous savez, il faut vraiment faire attention quand on dit les catéchismes du psautier. J'ai vu que certaines personnes ne savent pas le faire, on devrait apprendre ça dans les paroisses quand même. Quand on termine un psaume, en tout cas un catéchisme ou une stance dans le psautier, on termine toujours par « Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. » Et après ça, qu'est-ce qu'on dit ? Alléluia, 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 gloire à toi, Dieu, trois fois encore. Et après ça, Kyrie eleison, trois fois. Et après ça, on reprend la doxologie. Pourquoi ? Il faut faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on remercie Dieu de ce qu'il nous a révélé de lui-même dans sa parole qu'on vient de dire ou de lire ou de chanter. C'est les psaumes du catéchisme ou de d'instance précédente. On est là en train de remercier Dieu de s'être révélé à nous dans sa parole. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut dire à toute allure sans y penser, c'est pas quelque chose qu'on peut omettre, certainement pas, vous voyez. Parce que là est la base justement de l'activité dogmatique des chrétiens, c'est-à-dire cette conscience que je viens de lire. Alors, vous savez qu'il y a des psaumes, ça dépend de leur place. Par exemple, le psaume 50, dans sa place dans l'office des matines, il n'est pas toujours suivi de la doxologie, si c'est une matine solennelle ou une matine simple. Mais ça, c'est le cas particulier du psaume 50. Et tous les autres psaumes, le psaume 142 qu'on dit tout le temps, par exemple, se termine toujours de cette façon-là, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a la conscience qu'à travers ce psaume, qu'on dit ou qu'on redit ou qu'on récite par cœur, etc., Dieu nous a parlé, il nous a parlé de lui-même, il nous a parlé de nous, il nous a parlé de son monde, il s'est révélé dans sa parole, vous voyez. Et donc on le remercie, on reconnaît ça, on lui rend grâce. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, Kéleïsa, trois fois. Kéleïsa, nous fais nous miséricorde trois fois, ou boive de miséricorde trois fois, ou grosse petite pomme. Dites dans la langue que vous voulez, mais dites-le. Pourquoi ? Parce qu'on supplie Dieu de vouloir bien se révéler à nous encore plus et encore et encore et encore. De nous donner encore plus sa révélation, de nous donner encore plus son Esprit Saint, de nous combler encore de ces bienfaits qui ne sont pas des bienfaits matériels, encore que nous avons besoin de choses matérielles, comme je le dis à l'instant. Nous avons besoin de manger tous les jours, nous avons besoin d'avoir un chauffage qui marche, nous avons besoin que nos enfants soient en bonne santé, bien sûr. Mais essentiellement, de quoi est-ce que nous remercions Dieu, c'est de se révéler. De se révéler, de se faire connaître à nous, alors qu'il est inconnaissable par essence. Et c'est pour ça que les grandes prières de notre Église, la prière à la Mère de Dieu, il est digne en vérité de célébrer, et l'autre prière, les anaphores, l'anaphore de Saint Basile et l'anaphore de Saint Jean Chrysostome, commencent à la même façon. Il est digne de te remercier. C'est-à-dire, il est digne actionner, c'est-à-dire, ça vraiment on doit le faire, on ne peut pas ne pas le faire, Il est digne en vérité de te célébrer, il est digne de te louer, de te remercier, de te rendre grâce pour tous tes bienfaits, pour ta souveraineté, partout où s'étend ta souveraineté. C'est le début de la liturgie, c'est ici, c'est le début de la liturgie sur du canon de l'anaphore de Saint Jean Chrysostome. Il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce et de t'adorer, quel beau mot, de t'adorer partout où s'étend ta souveraineté. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de mieux que ça? Et qu'est-ce que ça peut être autre que justement cette théologie? Parce que là, on est justement dans un cadre théologique exceptionnel, qui est le cadre théologique dans lequel on s'adresse à Dieu. Et Dieu est vraiment la deuxième personne, la première personne qui nous parle, mais la deuxième personne à qui nous parlons, et non pas un troisième exclu ou absent ou silencieux. Moi, j'aime pas quand on dit, on parle de Dieu, mais c'est ce que j'ai rien à faire, vous allez me dire, j'ai l'impression de parler de Dieu et que je lui tourne le dos, ça me paraît insensé, vous voyez. C'est tellement mal élevé de faire ça. Vous savez, je disais ça l'autre jour, une personne qui me parlait, qui me disait, elle, en parlant d'une personne qui était juste à côté de nous. Je dis, mais dis pas elle, elle est là. Dis-tu, je ne peux pas parler de quelqu'un à quelqu'un si ce quelqu'un dont je parle à quelqu'un est là, quand même. C'est une question de politesse élémentaire. Qu'est-ce qu'on apprend, vous voyez? Donc finalement, il y a une espèce d'incorrection qui me gêne beaucoup à être là, à dire « il » en parlant de Dieu alors qu'il est là. Donc on va dire tout le temps « tu, toi qui es invisiblement présent, toi qui es partout présent, on devrait lui dire « que tu » puisqu'il est là. Au lieu de parler de lui comme d'un absent, ou qu'en lui tournant le dos. Ça me gêne beaucoup, mais c'est un peu insoluble. Quand je vous raconte ça, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais quand j'ai dû rédiger la thèse pour le doctorat en théologie, c'était un gros travail sur des années, et je souffrais beaucoup de ça, de tout le temps parler de Dieu à la troisième personne. Alors j'avais fait des essais de prendre un chapitre entier et de remplacer tous les « il » par des « tu ». C'était génial, mais j'ai pas osé parce que j'ai pas eu le courage d'écrire toute la thèse à la deuxième personne du singulier. Ça aurait été extraordinaire. J'ai pas osé. Je ne voulais pas dire ça parce que ça fait vraiment moche. Le type qui a pas le courage de ses opinions. Ça aurait été quand même assez génial, oui. Je l'ai pas osé parce que je suis prisonnier aussi, au fond de modèle de modèles théologiques, académiques, dogmatiques dans le petit sens du mot, où il est de coutume de parler de Dieu comme de quelqu'un qui n'est pas là, le grand absent. Alors ça, c'est tout à fait contraire à la foi orthodoxe. Il est typique, la foi orthodoxe. Qu'est-ce qu'elle dit, la foi orthodoxe? Elle dit, toi qui es dans cette prière que nous avons dans la liturgie, toi qui sièges auprès du Père, toi qui sièges en haut auprès du Père et qui es invisiblement présent avec nous par ton Saint-Esprit. C'est ça, la foi orthodoxe. C'est que le Christ est toujours présent dans son Église par le Saint-Esprit. Donc je lui demande pardon, je me prosterne devant lui, je lui demande pardon Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de parler de toi comme si tu n'étais pas là, vous voyez. Et là, on est dans le dogme, mais oui, on est dans le dogme, parce qu'on est en train de confesser la foi de l'Église, c'est-à-dire la réalité de la présence de Dieu, la réalité de l'incarnation. Donc voilà ce qu'est le dogme chrétien. Et je voudrais dire aussi encore, je ne sais pas quelle est l'heure qui nous reste, je ne sais pas, c'est que ce qu'on appelle, ce que j'essaie d'appeler donc ici le dogme chrétien, le dogme ecclésial, Père Placide insiste beaucoup là-dessus, justement sur le fait que ce dogme, il est transmis et partagé par l'ensemble de la communauté des croyants. Ce dogme n'est pas en rupture avec la foi biblique. Ça, c'est très 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 important ça, de le dire, parce qu'il y a quelquefois des malentendus à ce sujet. La foi chrétienne, le dogme chrétien, ce dogme exact, il ne remplace pas la foi biblique. Vous allez me dire, c'est évident. Eh bien écoutez, je le dis quand même, parce que quelquefois j'entends autre chose. Il ne le remplace pas, il l'accomplit dans la perfection, c'est-à-dire le dogme que connaît le grand prophète Moïse, un très grand théologien, qui est le dogme du Dieu personnel, un Dieu qui dit « je », ce dogme-là, il est élargi, accompli, développé, déployé par le Christ lui-même. Et le « je » divin se déploie en « je Père »,« je Fils », »,« je Saint-Esprit ». Mais c'est le même dogme. Donc il y a une unité dogmatique fondamentale dans l'ensemble de la Bible jusqu'à nous. Et donc il n'y a aucune substitution de la foi chrétienne à la foi biblique. Ça serait vraiment quelque chose d'extrêmement grave si nous pensions une chose pareille. Ce serait profondément faux. Profondément faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, à Moïse et aux apôtres après son incarnation. Je voulais. Quelle heure est-il en fait là? Bon, donc on a encore un petit peu de temps. Et je voulais parler beaucoup toujours du dogme, donc j'essaie de parler de manière intéressante, de ma façon à moi. Dire qu'il y a j'appelle ça des événements dogmatiques qui structurent l'histoire du salut, qui structurent la tradition, on va dire, biblique, biblico-ecclésiale ou judéo-chrétienne. Il y a des événements dogmatiques qui sont, par exemple, il y a la création. La création est un événement dogmatique parce que c'est la révélation de Dieu créateur. Dieu s'est révélé comme créateur en créant. Oui, ça a l'air de rien, mais oui. Il a révélé. C'est une théophanie extraordinaire, la création. Dieu est apparu, Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté tel qu'il est, tel qu'il se connaît lui-même dans cet acte-là. C'est ça que la création est le premier événement dogmatique de tous les temps, de tous les lieux et de toute éternité. C'est quelque chose de fantastique. Et faisant cela, il a donné l'existence à d'autres êtres que lui-même afin qu'ils le connaissent et afin qu'ils puissent lui rendre la gloire qu'il leur avait manifestée de lui-même. Alors vous allez me dire, ça fait un petit peu dire, Dieu a créé des gens pour que ces gens l'adorent. Oui, on va pas être bébête non plus, hein, on va pas faire de Dieu une espèce d'être égoïste qui dit absolument que je me trouve des fans quelque part. Hein, comme il n'y a pas de fans, je vais me créer des fans, des adorateurs, parce que j'ai besoin d'avoir des adorateurs. Autrement, moi comme Dieu, je suis vraiment pas content. Ça me manque. Hein. Ça, c'est une conception tout à fait pervertie de la divinité. Vous vous en rendez bien compte. Hein. C'est pas ça dont il s'agit. C'est que Dieu s'est manifesté dans la création, mais s'est manifesté comme amour. Et qu'est-ce que veut l'amour? L'amour veut être partagé, l'amour veut être multiplié, l'amour veut être échangé, et l'amour veut être célébré. L'amour veut être célébré. Donc il y a quelque chose qui, c'est pas une nécessité, parce que Dieu n'est soumis à aucune nécessité, mais c'est de la nature même de l'amour de se donner des partenaires, des personnes de dialogue, de multiplier les possibilités de dire qu'on s'aime, de multiplier les possibilités de s'envoyer des fleurs les uns aux autres, de multiplier les possibilités de se célébrer. Au fond, Dieu a créé le monde pour donner la possibilité d'une célébration indéfinie en dehors de lui-même où il se célèbre. Parce que le Père glorifie le Fils glorifie le Père, l'Esprit glorifie le Fils et glorifie le Père. Vous savez que le Christ dit ça dans l'évangile selon saint Jean, qui est notre faveur, surtout le chapitre 17, il dit ça, il dit « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde ne fût. » Ce qui veut dire que l'activité de la Trinité à l'intérieur d'elle-même est une auto-glorification ou une alter-glorification, parce que le Père ne se glorifie pas lui-même, il se glorifie dans le Fils ne se glorifie pas lui-même, il se glorifie dans le Père. Vous voyez, on dirait appeler ça plutôt une alter-glorification. Mais cette alter-glorification, qui est au fond, je dirais, la dogmatique interne de la divine Trinité, Dieu est dogmatique en lui-même, si vous voulez, et bien cette alter-glorification ou intra-glorification, eh bien, elle est déployée en faveur de la création dès que les créatures apparaissent par la volonté de Dieu. Donc c'est ça le premier acte, je dirais, événement dogmatique. Et puis, je prends celui-là parce qu'évidemment c'est passionnant de dire ces choses-là. Mais d'autres événements dogmatiques existent dans la Bible. Par exemple, le personnage d'Abraham. Il y a très bien qu'Abraham a été en dialogue avec Dieu, que Dieu lui a parlé, qu'il a entendu et qu'il a conçu, il a connu le projet divin pour le salut. C'est extraordinaire, c'est pour ça que le Christ a dit d'Abraham, Abraham m'a vu mon jour. Ce qui, le Christ a révélé à ce moment-là qu'il est justement, quelle est justement l'unité profonde de la tradition biblico-chrétienne ou judéo-chrétienne, biblico-ecclésiale. Qu'il est le même qui a parlé à Abraham et celui qui s'incarne et qui parle à ses voisins de palier ou de rue à Capharnaüm. Hein, vous voyez, c'est le même. C'est le même. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'opposition entre la foi chrétienne et la foi juive. C'est vraiment grave de dire. J'ai honte de penser qu'on entend des choses pareilles. Parce que c'est une négation de l'unité du Verbe lui-même. Alors le Verbe qui a dit que soit la lumière, parce que c'est lui qui a parlé, le Verbe qui a parlé à Abraham dans la nuit étoilée, et le Verbe qui a parlé à Moïse dans l'hémisphère ardent, est le même qui s'incarne, qui se fait homme, et que nous connaissons par la foi de l'Église, par l'Évangile, etc. Oui. Donc il y a des événements dogmatiques, c'est-à-dire des moments forts, de plus en plus forts, il faut le dire quand même, parce que c'est incomparablement plus fort dans l'incarnation historique du Verbe que dans la parole historique également du même Verbe à Abraham. Ça ne diminue en rien du tout le respect et l'admiration et l'amour que nous avons pour Abraham. Mais ce n'est pas la même densité d'événements, incontestablement, oui. Mais ces événements sont soudés par l'unité de la personne du Verbe. L'unité de la personne du Verbe. C'est le Verbe qui assure l'unité dogmatique de sa propre parole. C'est le Verbe qui assure l'unité dogmatique de la tradition. Et l'événement dogmatique par excellence, c'est l'incarnation. Quand toute la vérité est donnée, accessible sur un plat aux hommes qui veulent bien mettre leur foi en lui. Ce qui est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ça. C'est Dieu qui met sur un plat, à portée de tous, la révélation de lui-même, c'est-à-dire son dogme, donc la possibilité de se glorifier en eux et d'être glorifié par eux, ou d'être glorifié en eux aussi, parce que le dogme est fait d'une double, d'une altère glorification aussi, hein, puisque Dieu se glorifie en nous par son Saint-Esprit quand nous vivons selon ses commandements et par le Saint-Esprit et par la foi, et nous nous glorifions en lui quand nous le reconnaissons comme Père. Donc cette mutuelle glorification enrichit profondément la nature même de ce qu'on peut entendre par dogme. Dans le temps qui reste, j'avais préparé d'autres choses. Je voulais vous renvoyer quand même à Saint Jean Damascène, qui n'est pas un père cappadocien, c'est postérieur, mais je vous lis quand même, ça va illustrer ce que j'ai essayé de dire, ce que dit Saint Jean Damascène dans le premier chapitre, le tout premier chapitre de la foi orthodoxe. Alors, qui est un livre qui, moi je l'ai dans une édition très ancienne, je ne sais pas si on le trouve, il existe maintenant, mais il coûte extrêmement cher, donc il faut prévoir ça pour les cadeaux de Noël, et encore trouver autour de vous plusieurs personnes qui veulent bien se cotiser pour vous l'offrir, puisque ça revient à peu près à 100 €. Donc vous ne mangez pas pendant 3 jours pour pouvoir avoir la foi orthodoxe de Saint Jean Damascène, avec le texte grec d'un côté et le texte français de l'autre. Mais ça, on peut jeûner. Par exemple, il n'y a qu'à dire ça. Puis on va jeûner pendant le carême de Noël, et puis tout l'argent qu'on va mettre de côté, parce qu'on n'aura pas mangé de chocolat, on n'aura pas acheté de lait ni de fromage, etc. Tout cet argent-là, ça fait une petite cagnotte, et avec ça, on va s'acheter la foi orthodoxe de Saint Jean Damascène. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi bien, c'est beau comme tout. Alors, le titre, d'abord, est très intéressant. Le titre est de lui, je crois, vraiment. Le divin est incompréhensible, et il ne faut pas s'enquérir indiscrètement de ce que ne nous ont pas transmis les saints prophètes, apôtres et évangélistes. Et là, c'est déjà la règle d'or, les limites du dogme, c'est la tradition des prophètes, des apôtres et des évangélistes. Et le titre. Ensuite, je lis ça vraiment avec bonheur. Hein. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, l'unique engendré, monogène, comme on dit, unique engendré qui est dans le sein du Père, l'a lui-même enseigné. Ça, c'est une paraphrase de Saint Jean. Le divin est ineffable et incompréhensible. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni le Fils si ce n'est le Père. Autre citation de Saint Jean. Et le Saint-Esprit, semblablement, connaît ce qui est de Dieu, comme l'Esprit de l'homme connaît ce qui est de l'homme. Après la première et bienheureuse nature, c'est-à-dire après la nature divine, nul n'a jamais connu Dieu si ce n'est celui auquel lui-même s'est révélé, non seulement parmi les hommes, mais parmi les puissances hypercosmiques, et de celles-ci, je dis, même les chérubins et les séraphins. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune créature qui puisse connaître Dieu par nature. C'est clair, ça aussi. Et donc, c'est-à-dire que les chérubins et les séraphins, dans leur doxologie incessante dont je parlais tout à l'heure, ils ne font pas autre chose que rendre à Dieu ce que Dieu leur a révélé de lui-même. Ils ne le connaissent pas autrement. Ils ne le connaissent pas autrement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science de Dieu. La science est très très bien, mais c'est autre chose. La démarche scientifique, c'est autre chose. La connaissance dogmatique, ça se définit comme cela, c'est-à-dire confesser à Dieu la vérité qu'il nous a révélée de lui-même. Pas autre chose. Ensuite, après ça, il dit « Pourtant, certes, Dieu ne nous a pas laissés dans une complète ignorance, car chacun par nature a semé en lui la connaissance qu'il y a un Dieu. » Alors ça, c'est très très important, ça. L'idée d'une connaissance naturelle, mais qui s'explique par la création. Quelle est, c'est moi qui commente là, quelle est cette connaissance semée en nous-mêmes? Mais c'est l'image de Dieu, enfin, le sceau de l'image de Dieu plutôt en nous, et c'est l'insufflation des arts du Saint-Esprit à l'origine. C'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que tout homme peut avoir un sentiment très fort d'un absolu, d'un bien suprême, ou un désir très fort, même s'il n'a pas lu la Bible, pas rencontré chrétien, pas rencontré l'Église, mais vous voyez, c'est une espèce de potentiel, de possibilité de connaissance de Dieu qui est inscrite en nous. Mais il faut que la révélation vienne là-dessus, pour mettre, comme on dit, mettre un nom sur la chose. Bon, et Dieu fait ça, Dieu appelle un chat. Quand il se révèle, et à ce moment-là, si vous voulez, ça colle, la révélation que Dieu fait de lui-même de manière objective, en quelque sorte, adhère, embraye, si je peux dire, sur ces arts de la connaissance qui sont disponibles en nous. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on devient croyant. Le fait de croire en Dieu est une chose naturelle, une chose normale en fait, c'est absolument normal. Mais c'est un processus qui se fait par la reconnaissance, justement, la reconnaissance, on retrouve le mot, de ce qui est en nous déposé comme potentiel de connaissance de Dieu, avec ce que Dieu, de l'extérieur, entre guillemets, enfin quand même de l'extérieur, oui, nous apporte à travers sa parole, à travers le témoignage des saints, par l'action du Saint-Esprit essentiellement, vous voyez, par les événements, par toutes sortes de moyens que Dieu prend. Et justement, Père Placide encore, il cite quelque chose qui est très beau, c'est dans une note, je vais vous l'oublier, parce que ça m'a beaucoup touché, c'est très intéressant. Père Placide, il cite une histoire, quelque chose qui lui est arrivé avec une personne qu'il allait voir à l'hôpital, un monsieur tout à fait incroyant, vous allez voir ce qu'il en dit, c'est très touchant. Voilà la note de Père Placide, c'est page 12, note 5. « J'incline personnellement à penser que Dieu... dans la manière dont il dispense la lumière de la foi, vous admirez le style de Père Placide qui est vraiment très agréable, tient compte de certains conditionnements culturels et ne recourt pas nécessairement aux miracles pour les surmonter, mais agit d'une manière plus secrète à l'intime des cœurs. Pour ne citer qu'un exemple, j'ai connu un jeune homme d'une vingtaine d'années qui me dit, alors que je le visitais à l'hôpital quelques jours avant sa mort, « J'ai toujours vécu dans un milieu athée. Je n'ai pas été baptisé, et j'ignore tout de la religion. Mais, c'est là que vous allez voir, mais j'ai dans mon cœur une lumière, une certitude, qui me disent que toutes mes épreuves, toutes mes souffrances, ma mort prochaine elle-même, ne sont que l'envers d'une lumière et d'un bonheur immense dont je ne peux rien dire, mais dont j'éprouve l'absolue certitude. » C'est une beauté exceptionnelle, mais oui, ça illustre ce que dit Saint Jean Damascène, qui a quelque chose dans l'être humain, oui. Donc il est normal, c'est normal. C'est normal de faire le catéchisme aux enfants, c'est normal de baptiser les enfants quand ils sont petits, vous voyez, parce que il y a déjà en eux déposé des possibilités. On ne fait pas, c'est pas, comment dire, une injure qu'on fait à l'être humain quand on lui parle de Dieu. C'est pas un viol des consciences que de parler de Dieu aux gens, quand même, vous voyez. C'est pas une atteinte à la liberté de penser que de dire que le Christ est ressuscité. Enfin, on va en parler justement les fois prochaines, quand on parlera du kérigme. C'est-à-dire de l'annonce de la foi. L'annonce de la foi, ça fait partie de ce qui est dû à l'homme, puisqu'il y a en lui déjà la possibilité de le recevoir. Ce n'est pas étranger, Dieu n'est pas étranger à l'homme. Ce n'est pas hétérogène, ce n'est pas hétéroclite. Vous voyez, c'est naturel, en fait. Il est naturel. Je me rappelle que Père Raphaël disait ça une fois, il disait, mais au fond, il est naturel à l'être humain d'être croyant et d'être orthodoxe. Il disait, c'est que c'est naturel. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, donc vous voyez, et alors il dit, je continue mon texte de Sala Damasem, ce qui est quand même super beau. La création elle-même, par sa cohésion et par sa direction, proclame la magnificence de la nature divine. Ensuite, la loi et les prophètes, puis son Fils unique engendré, le Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont manifesté la connaissance de Dieu selon ce que nous pouvons atteindre. Donc vous voyez déjà ici que la révélation de Dieu qui constitue donc le dogme, elle passe par tous ces canaux-là, la création qui parle de Dieu, à travers laquelle Dieu se révèle, et puis donc les prophètes, la loi, et finalement le Fils unique engendré. C'est pourquoi tout ce qui nous a été transmis par la loi et les prophètes, par les apôtres et les évangélistes, nous l'acceptons, nous le connaissons, nous y appliquons notre piété, voilà le terme d'Evsevia, et nous ne cherchons pas au-delà. Donc ça c'est assez important, c'est un aspect important du dogme, c'est que le dogme est aussi une limite. Il est une limite, c'est-à-dire, bon, au-delà de ça, on s'arrête. On ne parle de Dieu que selon ce qu'il nous a dit de lui-même, d'une manière ou d'une autre. Mais on n'outrepasse pas, et ça si vous voulez, c'est la limite mise aux formes de gnose, les spéculations interminables. Saint Paul parle de ça, il dit... À Timothée, il dit, mais méfie-toi des spéculations vaines, ça c'est du temps perdu, ça, vous allez tous tomber dans l'hérésie. Restez simplement à ce que Dieu a révélé de lui-même. Il y a largement de quoi vous occuper jusqu'à la fin des temps, à la fin de votre vie. Voyez. Et c'est pas pour empêcher les gens de penser, vous comprenez bien, mais c'est pour éviter que l'être humain ne tombe dans l'illusion diabolique de la connaissance. Parce que Dieu ne peut être connu que dans ce qu'il donne, dans ce qu'il nous donne à connaître de lui-même. C'est incontournable. On ne peut pas, comment dire, usurper la connaissance de Dieu. C'est le problème d'Adam au paradis, peut-être, vous voyez. C'est-à-dire d'avoir voulu voler quelque chose de cette connaissance qui lui était proposée, mais que Dieu se réservait la paternité de lui donner. Et à partir du moment où l'être humain veut usurper, voler, dérober, donc ça gâche absolument tout, et c'est une illusion, et c'est une atteinte aussi à la majesté divine, c'est une erreur profonde. Vous savez que ça n'existe pas seulement dans la Bible, cette histoire-là, mais ça existe dans les grands mythes universels, par exemple le mythe de Prométhée, le mythe de... quel est l'autre mythe ? J'ai un blanc, donc dans la conscience mythique de l'humanité, ça vient très très souvent ce thème-là, c'est-à-dire que une connaissance de Dieu qui serait dérobée à Dieu devient absolument catastrophique pour l'être humain. C'est quelque chose qui... c'est considéré comme ce que les Grecs appellent l'hybris. L'hybris, c'est la transgression des lois divines. Et donc ça retombe toujours sur le transgresseur. La grande transgression, c'est de sortir des limites objectives de l'humanité. C'est la grande transgression, vous voyez. Donc, et ce qui est une erreur, parce qu'en fait, on ne connaît rien. On ne connaît que sa propre passion, on ne connaît que sa propre prétention, et que son propre orgueil. On ne se connaît que soi-même, et on devient esclave de soi-même, dans cette connaissance-là, parce que Dieu n'est pas connu de cette façon-là. Dieu n'est pas préhensible, d'une certaine façon, compréhensible, oui, dans ce sens-là. Il n'est pas concevable. Concevoir ou comprendre, c'est attraper, saisir. Dieu est insaisissable, mais il se donne. Ça, c'est typique, de la dogmatique orthodoxe des pères grecs, syriens, on dit orientaux, bah oui, c'était principalement la théologie syrienne et grecque, c'était ça. C'est dire, mais tu ne peux pas saisir Dieu, mais lui, il veut bien se donner à toi. Il veut bien se révéler à toi quand il en choisit le moment et l'heure. Vous voyez. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a quand même l'initiative de la connaissance, d'être connu. Vous voyez, comme de même qu'il a l'initiative de l'amour, ce qu'il dit dans une épître de Saint Jean, voilà, il dit ça, que c'est Dieu qui aime le premier. On dit, nous aimons Dieu. Non, nous co-aimons, nous rendons à Dieu l'amour qui vient de lui. Il est impossible à l'homme d'aimer Dieu. C'est très grave cette question-là, justement. On dit par exemple, le Christ dit, il rappelle le commandement premier, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de ton intelligence, etc. Ben, c'est impossible. C'est impossible. Commandement impossible. Sauf si on sait que Dieu aime le premier et que l'application de ce commandement consiste d'abord à recevoir, accepter, croire, confesser l'amour qui vient de Dieu. Nous, aimer, c'est jamais, ça ne peut être autre chose qu'une réponse à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très embêtant. Vous savez, on voit même ça d'un point de vue psychologique. Pareil, dans les orphelinats, par exemple, on trouve des choses terribles, des enfants qui n'ont pas été aimés, qu'on a mis là, dans un coin, et puis on ne s'en est pas occupé, on ne leur a pas parlé, on ne leur a pas souri, on ne leur a pas chanté, on ne les a pas battus, on n'a rien fait de ce qu'on peut faire pour un enfant pour montrer qu'on l'aime. Il n'a pas fouetté, il n'a pas châtié pour leur montrer qu'on les aimait, rien. Et il paraît qu'un enfant, justement, alors c'est un enfant, un être humain qui n'a pas été aimé ou qui a été trop peu aimé, eh bien, il ne s'en sort pas, si vous voulez, parce qu'il n'a rien à répondre, il n'a rien à rendre, puisqu'il n'a pas reçu. Et ça, c'est un aspect très important, et ça, tu as une profonde, c'est pas seulement, c'est vraiment profond du point de vue, vous le comprenez bien, dogmatique, spirituel, etc., mais ça a également une profondeur psychologique très, 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 très importante, très importante. Et beaucoup d'êtres, les adultes qui sont dans un très, très, très mauvais état de l'âme, parce qu'il y a cette carence, on dit une carence affective, mais c'est pas si bête comme expression, mais ça correspond à ce qui nous est révélé dans l'Évangile. C'est que Dieu aimant le premier, si je ne ressens pas cet amour de Dieu, je ne peux pas l'aimer. Donc la première chose à faire, c'est de révéler ça. Et maintenant, Dieu t'aime. Tu es aimé de Dieu. C'est la première chose à dire. Parce que chacun est aimé. La carence affective à l'égard de Dieu, c'est ainsi une ignorance. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé de Dieu. Tous, chaque personne est aimé de Dieu. Mais ça veut dire qu'on ne le sait pas. Et ne se sachant pas aimé de Dieu, on ne sait pas quoi faire de sa vie, c'est tout. Donc ça, ce sont des choses très très importantes. Alors, je m'arrête là-dessus, vous voyez, parce que vous voyez cette histoire de la transgression quand il dit à la fin « Contentons-nous donc de cela et demeurons sans déplacer les bornes antiques ni transgresser la divine tradition ». Ce n'est pas du dogmatisme étroit. C'est le fonctionnement même, si vous voulez, du processus de connaissance. C'est tout, ça fonctionne comme ça, si vous voulez. Que Dieu se révèle, nous recevons cette révélation et nous la lui rendons en action de grâce. Et c'est là. Merci beaucoup. Merci. À tous, à Père Julien en premier, à vous qui êtes là, à ceux vous qui êtes connectés ou qui allez écouter ces paroles inspirées en différé. Et donc, la fois prochaine, si Dieu veut, et nous prête vie, me prête vie en tout cas, j'apporterai donc un autre aspect qui est ce qu'on appelle le kérigme, qui est l'autre volet, si vous voulez, de la théologie patristique. Ou je reviendrai là-dessus s'il y a des questions, mais je crois qu'en fait, il faut faire un thème par séance. Comme les séances sont très séparées, on ne peut pas prolonger. Voilà, merci.